L'affaire Dominique Aubry, mort suspecte d'une riche veuve. Tantôt suggéré par le capitaine Colombie, le mobile de la cupidité clignote, il brûle les yeux de la partie civile. La police judiciaire parisienne ne leur donne ni raison, ni tort. Elle refuse de s'engager sur le chemin de l'homicide. Elle ne parvient pas à le consolider avec une preuve, avec un aveu. Que reste-t-il alors, sinon la science? Le 13 avril 2006, le professeur Lecomte, patronne de l'Institut médico-légal de Paris depuis 1988, ouvre le bal. Elle procède à des analyses sur les prélèvements effectués avant la crémation de Dominique Aubry. Le larynx de la victime, par exemple, sur lequel elle remarque une fêlure, négligée par ses prédécesseurs, peu caractéristique d'une pendaison, plutôt la trace d'une éventuelle strangulation. Le constat du légiste est discuté. La fente a pu être provoquée par les policiers en décrochant le corps suspendu à l'escalier ou par un assistant du légiste durant le prélèvement. Le doute offre à l'instruction l'acte d'une reconstitution. Le 4 juillet, un mannequin à l'effigie de Dominique Aubry pend dans le salon de la péniche La Martinique. Il faut se projeter un peu pour s'imaginer la reconstitution. La grande interrogation réside dans la capacité de la victime, après la vodka et les médicaments, à confectionner les nœuds, à calculer l'exacte quantité de corde nécessaire à dérouler, afin que ses pieds ne puissent qu'effleurer le sol, une fois le corps suspendu. On peut admettre qu'elle ait préparé en amont son suicide, lucide, mais on continue à se demander comment, dans son état définitif, ivre et drogué de médicaments puissants, Dominique aurait réussi à monter seule sur une des chaises brinque-ballantes, dépourvue de dossier, à accomplir son dessein jusqu'au bout, sans fausse note. La mise en scène sur la péniche, peu concluante, affiche ses limites. Elle a tout de même le mérite de relever quelques zones d'ombre, celle-ci notamment. Le jeudi 1er décembre 2005, à la découverte du drame, qu'il s'agisse de Franck Renard Païen, du voisin Monsieur Voidet ou des policiers de Neuilly, tous affirment que la péniche était plongée dans le noir. Dominique aurait ainsi, la nuit précédente, éteint toutes les lumières avant de se donner la mort. Les fervents adeptes de l'approche criminelle, c'est-à-dire la partie civile, y voient l'erreur grossière qu'ont pu commettre le ou les assassins. Manque d'expérience, il s'apprête à déguerpir et, dans un réflexe pavlovien, songe à fermer tous les interrupteurs avant de refermer la porte derrière eux. Un nombre démesuré d'expertises va débattre sans fin sur les capacités motrices de Libellule, sur son seuil de tolérance à l'alcool et aux somnifères. Certaines sortent du lot, l'analyse notamment de la funeste corde en nylon bleu. L'ADN de Dominique est relevé sur le nœud au contact de son épiderme, tandis qu'un second profil se dégage, sur une autre portion, celui d'Olivier Eustache. Il l'explique remarquablement bien. On trouve sur le pont du bateau le même type de cordage, servant à attacher les pneus utilisés comme pare-battage, ou à accrocher l'annexe. Il se peut qu'au cours d'une des soirées arrosées sur la terrasse, en octobre dernier, Olivier ait trouvé amusant de se suspendre au-dessus de l'eau, agrippé à cette fameuse corde bleue, sorte de Tarzan lorrain particulièrement éméché. Devant cette coïncidence, si troublante, voulant qu'Olivier puis Dominique se soient chacun leur tour balancés à cette unique corde, la police judiciaire parisienne ne bronche pas, au grand dam des plaignants. Ils ont beau faire des efforts, plisser les yeux, ils ne voient pas d'assassinat. Qu'à cela ne tienne, l'instruction change de visage. Un nouveau juge, Thomas Cassuto, prend le relais, se sépare du 36 en panne d'imagination et saisit la brigade criminelle de Versailles, sommée, tacitement semble-t-il, de contredire à tout prix les conclusions de leurs confrères. De là, tout va très vite. Le 10 juin 2008, Franck Renard Païen et Olivier Eustache sont placés en garde à vue 48 heures, mis en examen et en détention provisoire pour assassinat. Ils ne vont pas y rester longtemps, remis en liberté au bout d'une douzaine de jours pour l'un, d'un peu plus d'un mois pour l'autre. Ils demeurent suspectés, soumis à un contrôle judiciaire comme aux foudres de l'instruction. Elles foncent droit, multiplient les expertises et il s'en dégage une étrange impression. Le juge semble s'acharner, alourdir la procédure jusqu'à ce qu'un expert lui apporte les conclusions souhaitées. Une batterie de spécialistes s'emploie ainsi à déterminer si l'ADN d'Olivier Eustache sur la corde bleue a pu survivre aussi longtemps aux intempéries sur le pont, ou si son empreinte a pu être apposée plus récemment. Il fouille également le bol alimentaire de Dominique, tâche d'y repérer les restes du menu énoncé par Franck Renard Païen. Le magistrat s'obstine à vouloir les prendre en défaut, à chasser le mensonge. Il va jusqu'à consulter l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire, dans le simple but de connaître avec exactitude l'heure du coucher du soleil, le 30 novembre 2005. Le meilleur reste à venir. Les plus attentifs l'auront peut-être noté, il existe contre toute attente un témoin direct ayant assisté à la mort de Dominique Aubry. Un témoin capable de nous dire si, oui ou non, Franck Renard Païen et Olivier Eustache ont maquillé un meurtre en suicide. Il s'agit ni plus ni moins de Théo, le chien dalmatien, qui a assisté à la mort de Dominique. À court d'idées, le juge d'instruction innove un acte de procédure édifiant. Il réunit le 8 juillet 2008, à bord de la péniche, le dalmatien et les deux mis en examen, Olivier et Franck. Aux commandes, on repère un vétérinaire spécialisé dans le comportement des animaux, le bien nommé professeur Mouton, selon qui un chien peut éprouver le traumatisme d'avoir assisté à un crime commis contre son maître ou sa maîtresse. Par son attitude au contact des coupables, signe d'agressivité, de peur ou mouvement de recul, le chien serait en mesure de fournir de précieux renseignements, sorte de séance de tapissage canine. On demande à voir. Le jour J, le spécialiste des animaux demande à Théo, le dalmatien, de renifler plusieurs vêtements, dont l'un appartenant à Olivier Eustache. Évidemment, le dalmatien réagit à ce dernier, à moins qu'il ne se soit lassé du professeur, qui glisse à n'en plus finir des t-shirts sous sa truffe. L'expérience pousse le vice plus loin, car le spécialiste confronte dans une pièce Olivier, le suspect, et Théo, le chien, et les résultats sont sans équivoque. Son attitude nous paraît être celle d'un chien inquiet, conclut l'expert. L'anecdote va contribuer à médiatiser l'affaire. L'hebdomadaire satirique, Le Canard Enchaîné surtout, ne manquera pas l'occasion de se payer le juge d'instruction Cassuto, celui qui, l'année précédente, avait voulu, sans grand succès, perquisitionner les locaux de la rédaction à la recherche de leur informateur, de la source qui avait outrepassé le secret de l'instruction dans l'affaire Clearstream. En guise de représailles, paraît un article gratiné, titré « Levez la papate et dites, je le jure ». En bas de page, une annotation précise « Ni le juge Thomas Cassuto, ni le chien Théo » n'ont souhaité répondre aux questions du canard. Mai 2011. 6 ans se sont écoulés depuis la mort de Dominique Aubry. Le juge Cassuto, fort d'avoir noyé le dossier dans une quarantaine d'expertises et contre-expertises nébuleuses, souvent contradictoires, cède volontiers sa place à Nathalie Turquet, la magistrate qui, dans 10 ans, contribuera à l'identification du tueur à la peau grêlée. Une autre histoire. Pour l'heure, la nouvelle juge est peu convaincue par la direction des investigations menées, déplore trop d'incertitudes, pas assez d'indices concrets, et délivre une ordonnance de non-lieu. Un suicide, une pendaison, on s'arrête ici. Le dénouement abrupt ne contente ni le parquet de Nanterre, ni la partie civile lésée. Tous font appel, la chambre de l'instruction s'en mêle, tranche et statue le 31 janvier 2012. Franck Renard Païen et Olivier Eustache seront finalement attendus pour un procès qui se tiendra aux assises. Leur procès s'ouvre dans les Hauts-de-Seine le 4 mars 2014. « Ça fait tellement longtemps que ça dure », soupire Olivier Eustache dans un micro tendu devant la salle. Lui et son ami comparaissent libres, prennent place dans le box des accusés. On recroise Frédéric Fontaine, le frère de Dominique, seul sur le banc de la partie civile depuis le décès de sa mère. Drôle d'ambiance, électricité dans l'air. Franck Renard Païen risque la réclusion criminelle à perpétuité, à moins qu'il ne réussisse à repartir par la grande porte, libre et apte à réclamer l'héritage de Dominique Aubry. Il gagne tout ou il perd tout, pas de juste milieu. On ne souhaite à personne cette pression, abattue sur ses épaules au moment de prendre la parole. Il tangue, les cordes vocales sciées, garçon évanescent, apprêté, qui murmure ces mots, terrifié par les enjeux. Gigolo, enfant gâté, vénal, profiteur, mais aussi généreux, sensible, affectueux, attentif. On dit tout de lui, c'est le jeu des procès d'assises, au gré des différents témoignages qui se succèdent à la barre. Olivier Eustache montre plus de répondants. La voix porte, le regard ne bronche pas. À ses côtés, l'inénarrable avocat de la Défense, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice par la suite, se régale. Un boulevard s'offre à lui. « J'ai envisagé de faire citer le chien », attaque-t-il d'emblée, « mais il n'est pas en grande forme. Le dossier ne demande qu'à être fustigé. Des années de procédure, trois juges d'instruction qui se succèdent, pas de preuves, pas d'aveux, et des expertises à foison. La science, toujours. À la barre, les experts défilent et ennuient. On ne sait auquel se fier, surtout lorsqu'ils raturent et altèrent leurs rapports. Le président de la cour d'assises le sent, il égare son assemblée, et donne alors un bon coup de fouet en emmenant tout le monde à bord de la péniche La Martinique. Il ne reste plus grand-chose sur place, dans l'ancien logement de la victime. Plus d'œuvres d'art, plus de majorelles, plus de galets, à peine une tête de lion empaillée, une peau de léopard, une valise Vuitton qui traîne, et des photos du couple Aubry, du temps de sa splendeur, en maillot de bain, bronzé, heureux. À la tête du cortège, Franck et Olivier s'improvisent agents immobiliers, présentent l'agencement, les pièces qui se succèdent sur 300 mètres carrés habitables. Retour à la cour d'assises, le moment est venu de convaincre. Dans son réquisitoire, l'avocat général Marc Roucherol ne conçoit pas que Dominique Aubry ait pu seul mettre fin à ses jours. Quelqu'un l'a aidé, et qui mieux que son légataire universel, Franck, assorti au conseiller financier, Olivier, celui qui trouve un modèle de testament sur Internet et épaule la future victime chez le notaire. Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont accusés d'avoir mis sur pied un plan machiavélique, un assassinat sordide et crapuleux, contre lequel le ministère public requiert 15 à 20 ans de réclusion criminelle. « Le mobile financier n'est pas un élément à charge », lui répond Maître Dupont-Moretti. « On prête à son client de mauvaises intentions, mais on ne parvient pas à le démontrer. On s'offusque que Dominique ait choisi Franck plutôt que sa famille. On le jalouse en secret. » Le parquet a échoué à prouver le mobile financier, qui devient la preuve d'un crime qui n'existe pas, selon Maître Dupont-Moretti. La défense conclut « L'ordre moral bourgeois est troublé par des garçons qui dansent plus qu'ils ne travaillent. Condamner ces hommes serait un assassinat judiciaire. » Mardi 18 mars 2014, après 2 heures de délibéré, le jury rend son verdict. Dominique Aubry s'est donné la mort volontairement, elle s'est suicidée. Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont acquittés. Le camp adverse a 10 jours pour faire appel, ils ne vont pas se priver. Le match retour est prévu aux Assises de Versailles en octobre 2015, les tempes d'Olivier grisonnent, cela fait 10 ans que l'affaire le poursuit. Le nouveau procès souffre de la redite. Aucun élément inédit ne vient bousculer les acquis. L'accusation, en manque d'inspiration, se contente de qualifier les deux hommes de « pas sympathiques ». Le 19 octobre, le verdict en premier appel est confirmé. Le suicide de Dominique Aubry est reconnu, une fois pour toutes. Qu'en sera-t-il des 14 millions d'euros de l'héritage? Franck Renard Payen, désormais acquitté, peut-il y prétendre? Oui, enfin, pas dans son intégralité. L'État, comme il est de coutume lors d'une succession indirecte, se réserve une bonne part, 60% du montant total. La mère de Dominique, certes disparue, touche quant à elle la part réservataire, soit 25%, revenant de droit à son fils, Frédéric. En bas du tableau, il ne reste ainsi qu'un gâteau aux trois quarts grignoté, une maigre part de 4 millions d'euros laissée au légataire universel. Or, car rien n'est simple, l'héritage de Franck est vite contesté par le frère de Dominique, M. Fontaine. Aujourd'hui encore, le différend se règle auprès du tribunal civil. 2 décennies après sa mort, nul n'a su s'accaparer les restes de la fortune de Libellule, et si l'on cherchait dans les fables de La Fontaine une citation de circonstance, on trouverait les derniers mots de l'avare qui a perdu son trésor. Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant.